Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Il y a vraiment un sujet que je ne comprends pas du tout, c'est le sujet de la monnaie. Je suis allée voir Bruno Jetin, maître de conférence en économie à Paris, pour l'interroger sur la taxe Tobin. Et au détour de ses explications, on en apprendra plus sur la monnaie. Émission en deux volets, l'un cette semaine et l'autre la semaine prochaine. Émission un peu ardue, mais difficile de faire autrement. Écoutez bien donc, ou mettez une cassette. La taxe Tobin, ça taxe quoi finalement? Tous les échanges? Le fait qu'une entreprise investisse dans un autre pays? Ou c'est autre chose? C'est ce que j'ai demandé à Bruno Jetin.
La taxe Tobin, que je préfère appeler taxe sur les transactions de change, a pour objectif de taxer toutes les transactions d'une monnaie dans une autre monnaie. C'est-à-dire à chaque fois qu'on transforme une monnaie dans une monnaie étrangère, qu'on échange des euros contre des dollars, ou qu'on échange des euros contre des yens, ou qu'on échange des euros contre des livres sterling, ou des livres sterling contre des dollars. C'est-à-dire à chaque fois qu'on convertit une monnaie dans une autre monnaie. Comment ça se passe concrètement? Si on veut acheter des dollars, on doit vendre des euros quand on est membre, enfin citoyen de l'Union européenne. Donc on vend des euros et en échange, on achète des dollars. L'idée, c'est qu'au moment où on vend les euros, une taxe relativement faible de 0,1% soit prélevée. Alors, dit comme ça, c'est un peu effrayant parce qu'on se dit, bah, si je pars en vacances l'année prochaine à l'étranger, déjà que ça coûte cher parce que les banques prélèvent des commissions importantes, il va falloir que je paye en plus une taxe, c'est pas juste. Bon. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la taxe sur les transactions de change ne vise pas du tout les particuliers. Quand on part en vacances à l'étranger, les sommes que l'on change en monnaie étrangère, par exemple si on part en vacances en Thaïlande, on va changer des euros contre des bahts, qui est la monnaie de Thaïlande, ça représente même pas une goutte d'eau dans l'océan du marché d'échange mondial. Donc la taxe Tobin ou la taxe sur les transactions de change ne s'intéresse qu'à ce qu'on pourrait appeler le marché de gros. Le marché d'échange en gros, qui concerne uniquement les grandes entreprises, les firmes multinationales, les grandes institutions financières comme les compagnies d'assurance, les fonds spéculatifs, les fonds mutuels qu'en France on appelle les SICAV, ou bien les grandes banques qui sont aussi des firmes multinationales. Donc ce sont ces transactions-là réalisées par ces grandes entreprises qui sont visées par la taxe Tobin, ce qu'on appelle le marché d'échange en gros, parce que les montants de monnaie qui sont échangés sont gigantesques. Par exemple, aux États-Unis, les transactions de change ont en moyenne une valeur de 15 millions de dollars au minimum. Bon, il y a quand même peu de particuliers qui partent en vacances à l'étranger en changeant 15 millions de dollars, sauf peut-être Chirac quand il va en vacances à l'île Maurice.
Qu'est-ce qui motive les entreprises dans le fait d'acheter du dollar, par exemple?
Alors, les entreprises achètent du dollar pour des raisons commerciales, quand ce sont des entreprises productives. Par exemple, une entreprise française qui importe des produits américains pour les vendre en France va convertir des euros en dollars pour pouvoir régler sa facture à son fournisseur américain. Et son fournisseur américain, le plus souvent, demande à être payé en dollars. Donc l'entreprise française doit acheter ses dollars en vendant des euros. Et l'idée, c'est à ce moment-là de taxer ce type de transaction de change. À l'inverse, une entreprise française qui vend des produits aux États-Unis, parce qu'elle a exporté, par exemple, du camembert, va recevoir des dollars, ou peut demander à ses clients américains de lui fournir des euros. Alors si ce sont les clients américains qui fournissent directement les euros, ce sont eux qui font la transaction de change. Si les clients américains décident de payer en dollars, c'est l'entreprise française qui exporte aux États-Unis qui reçoit des dollars et qui va les convertir en euros.
Et qu'est-ce qui peut motiver l'entreprise à choisir plutôt d'être payée en dollars ou plutôt en euros?
En général, ça dépend des accords entre une entreprise et ses clients. Ça peut être variable. S'il s'agit d'une entreprise française multinationale qui utilise beaucoup de dollars pour d'autres activités en Asie, par exemple, dans ce cas-là, elle peut demander à être payée en dollars parce qu'elle va avoir elle-même besoin de ces dollars ailleurs. Bon. S'il s'agit d'une petite entreprise française qui a peu d'activités internationales, elle va peut-être préférer recevoir des euros. Bon, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que derrière ces négociations, est-ce que je paye en dollars, est-ce que je paye en euros, il y a un phénomène important qui est ce qu'on appelle le risque de change. Alors le risque de change, c'est quoi? Si une entreprise française doit recevoir des dollars, elle doit être payée en dollars, et que au moment où elle reçoit les dollars, le dollar perd de sa valeur vis-à-vis de l'euro. Par exemple, je prends un cas fictif. Supposons qu'un euro vale un dollar, mais qu'au moment où l'entreprise française reçoive les dollars perdent de leur valeur vis-à-vis de l'euro et qu'un euro vaut un dollar et demi. Bon. Ou dit autrement, que un dollar ne permet plus d'obtenir que 0,75 euros. Dans ce cas-là, l'entreprise française qui reçoit les dollars va perdre de l'argent, parce qu'au moment où elle va convertir ses dollars en euros, elle obtiendra moins d'euros. C'est pour ça qu'elle perd de l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle un risque de change, c'est-à-dire le risque de dévalorisation, de perte de valeur de la monnaie qu'on reçoit. Et toutes les entreprises multinationales et plus largement tous les investisseurs financiers ont peur du risque de change et cherchent à éviter le risque de change. Et l'idéal pour elles, c'est que le risque de change soit assumé par d'autres. Bon. Si par exemple une entreprise française vend des produits français aux États-Unis et qu'elle demande à être payée en euros, ce sont les clients américains qui vont devoir convertir des dollars en euros. Et donc si le dollar perd de sa valeur vis-à-vis de l'euro, ce sont les clients américains qui supportent la perte, le risque de change. Tandis que si l'entreprise française se fait payer en dollars, c'est elle qui subit la perte dans le cas où le dollar perd de sa valeur. Et en dehors des entreprises, les grosses fortunes mondiales, par exemple, quand elles décident d'investir dans un pays, elles cherchent à investir dans un pays dont la monnaie est sûre, c'est-à-dire est soit relativement stable, soit s'apprécie au contraire, de façon à ne pas perdre de l'argent en plaçant sa fortune dans un pays dont la monnaie est en train de se dévaloriser à toute vitesse. Donc par exemple, aucune grosse fortune dans le monde n'a investi en Argentine dans les semaines récentes, parce que le peso argentin s'est énormément dévalorisé vis-à-vis du dollar. À l'heure actuelle au Brésil, il y a peu d'investisseurs étrangers qui investissent au Brésil parce que le réal, la monnaie brésilienne, s'est fortement dévalorisé vis-à-vis du dollar américain, et parce que les grosses fortunes brésiliennes font sortir leur argent du Brésil pour les placer en dollars ou en euros ou en francs suisses, qui sont des monnaies fortes.
Des sous et des hommes avec Bruno Jetin. Vous tenez le choc? En tout cas, on continue.
Et ça marche finalement comme n'importe quelle marchandise, la monnaie, c'est-à-dire que plus il y a de gens qui demandent telle et telle monnaie, plus elle vaut cher, et moins on la demande, plus elle vaut rien du tout.
Exactement, c'est-à-dire que toutes les monnaies ont un prix, et ce prix est déterminé sur un marché par confrontation de l'offre et de la demande. De la même façon que le prix du pétrole, le prix des bananes, ou le prix de n'importe quelle marchandise. C'est la confrontation de l'offre et de la demande à un moment donné, c'est-à-dire à un jour donné, à, je dirais même une heure et une minute précise, qui détermine le prix d'une monnaie par rapport à une autre monnaie. Et c'est un problème d'ailleurs, parce que les monnaies ne devraient pas être des marchandises, ce ne sont pas des biens privés comme le pétrole, le vin ou les automobiles. Pourquoi? Parce que les monnaies sont aussi au fondement de l'existence des pays, des nations. Les monnaies ont une histoire, elles sont en général héritières de la tradition historique d'un pays. Et les monnaies sont utilisées par tous les citoyens d'un pays. Et d'une certaine façon, on peut dire que ce sont des biens publics au même titre que la culture, l'éducation, la justice sont des biens publics qui appartiennent à tous ceux qui vivent dans un pays. Et ce qui s'est passé depuis les années 70, c'est que petit à petit, les monnaies se sont privatisées. C'est-à-dire qu'elles sont devenues des objets de spéculation, alors qu'autrefois, ce n'était pas le cas.
C'est-à-dire que ça n'a pas toujours été comme ça. Il n'y a pas toujours eu des prix de monnaie qui fluctuaient les unes par rapport aux autres.
Alors, si on remonte très loin dans l'histoire, c'est-à-dire Moyen-Âge, et puis ensuite le début du capitalisme après la révolution industrielle, si les monnaies étaient flottantes, et donc les taux de change, c'est-à-dire le prix d'une monnaie vis-à-vis d'une autre monnaie, variaient plus ou moins fortement. Mais dans l'histoire récente, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, durant la période qui va de 1944 à 1971, qui est l'époque où un système monétaire international digne de ce nom existait, qu'on a appelé le système de Bretton Woods, du nom d'une petite ville du New Hampshire aux États-Unis qui s'appelle Bretton Woods et où ces accords ont été signés entre les puissances alliées victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. Depuis cette période, les taux de change étaient fixes. C'est-à-dire entre 1944 et 1971, on a créé un système où on avait décidé que le prix d'une monnaie par rapport à une autre monnaie devait rester fixe ou quasi fixe. Alors, pourquoi est-ce que les pays riches de l'époque avaient pris cette décision? C'était parce qu'ils avaient tiré les leçons de la grande crise des années 30, où la finance avait montré son pouvoir déstabilisateur, pouvant provoquer des crises économiques graves. Et par réaction, à cette époque, on avait décidé de museler la finance. C'était pas seulement les monnaies qui étaient fixes, mais il n'y avait pas, entre 1944 et 1971, de liberté totale de circulation des capitaux. Les États-Unis, les principaux pays d'Europe, avaient établi un système de contrôle des capitaux qui empêchait les capitaux de sortir librement pour aller s'investir dans un autre pays, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, ça m'amène à faire le lien à nouveau avec le taux de change, c'est que si jamais il y a une fuite des capitaux, comme c'est le cas aujourd'hui au Brésil, comment concrètement ça se passe? Eh bien, au Brésil, ceux qui détiennent des capitaux importants dans la monnaie brésilienne, c'est-à-dire le real, vont vendre ces capitaux, vendre du real pour acheter du dollar, ou acheter de l'euro ou du franc suisse. Au fur et à mesure qu'ils vendent de plus en plus de reais, le prix du real va baisser. C'est la loi de l'offre et de la demande. Et le prix du dollar va augmenter. Donc la monnaie brésilienne perd de plus en plus rapidement de sa valeur au fur et à mesure qu'il y a une fuite des capitaux. D'où le choix suivant, soit on décide d'empêcher les fuites de capitaux par un système de contrôle des capitaux, de contrôle des changes, et d'en faire une règle permanente, soit on laisse faire. Durant la période du système de Bretton Woods, de 1944 à 1971, on avait décidé d'un système de contrôle des capitaux généralisé. Alors, il y avait quand même la possibilité pour des Américains d'investir en Europe, etc., mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et à cette époque-là, donc, les taux de change étaient relativement stables. Donc, très peu de possibilités de spéculer sur les monnaies, puisque par définition, les prix des monnaies, les unes vis-à-vis des autres, étaient fixes ou quasi fixes. Avec la disparition du système de Bretton Woods en 1971, les taux de change sont devenus flottants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux de change de l'euro vis-à-vis du dollar change de minute en minute, et on pourrait même dire de seconde en seconde, et il en est ainsi pour toutes les monnaies du monde, ou pratiquement. Et depuis les années 80, on a décidé de parachever, si je puis dire, le mouvement, en libéralisant presque complètement la circulation des capitaux. Ce qui fait qu'on est dans un monde où les personnes n'ont pas le droit de circuler librement d'un pays à l'autre, hein, puisqu'il y a tous ces contrôles aux frontières qui empêchent l'immigration, qui empêchent tout simplement un habitant des Caraïbes de venir visiter la France sans qu'il soit harcelé par la police. Mais par contre, les capitaux, eux, ont le droit de circuler pratiquement sans contrôle aux frontières.
Et oui, seulement 33 secondes de pause aujourd'hui, c'est comme ça, hein, faut le savoir, c'était les têtes raides, c'est un peu surprenant. Hein. En tous les cas, vous écoutez Des Sous et des Hommes, on est toujours avec Bruno Jetin qui nous parle des monnaies, un sujet compliqué, et de la taxe Tobin. Et donc, ça repart.
Il y a un petit truc que j'ai pas compris, c'est quand vous disiez que ceux qui avaient des grandes fortunes au Brésil actuellement faisaient sortir leurs capitaux pour acheter du dollar donc et vendre le réal, si vous dites Brésil, ça devait être l'Argentine, mais enfin tant pis. À qui ils le vendent? Qui est-ce qui veut du réal actuellement? Je vois pas quel est l'intérêt d'acheter du réal actuellement.
Alors, qui achète du réal? Il y a un certain nombre d'entreprises qui commercent avec le Brésil. Qui en ont besoin. Il y a des investisseurs financiers qui décident de prendre le risque d'investir au Brésil en achetant du réal parce qu'ils attendent une rémunération de leurs investissements au Brésil tellement élevée que ça va compenser ce qu'ils perdent avec la dévalorisation du réal. Alors, ce sont des investisseurs qui spéculent en tant que tel, c'est-à-dire qu'ils prennent un risque délibéré dans l'espoir d'en tirer un profit. On peut donner cette définition de la spéculation. Spéculer, c'est prendre un risque pour en faire un profit, et on espère que le profit vaut la peine de prendre le risque. Mais parfois, on se trompe. Bon. Mais si le réal se dévalorise à grande vitesse, c'est quand même qu'il y a plus d'investisseurs qui vendent du réal que d'investisseurs qui décident de l'acheter. Hein. Sinon, il n'y aurait pas de dévalorisation du réal. Alors, par ailleurs, ceux qui achètent les réals peuvent les revendre la minute suivante. Hein, ils ne vont pas les garder longtemps.
Parce que c'est un peu ça, la spéculation, c'est une espèce de mouvement de va-et-vient permanent jouant sur les taux de change. C'est pas quelqu'un qui posément prend son argent, deux ans après, on décide de le revendre, un peu comme un appartement, finalement, en ayant fait une plus-value. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Si, sur le principe, c'est la même chose. Sauf que si, lorsqu'on achète un appartement pour y vivre et en espérant le revendre quelques années plus tard à un prix plus élevé, on peut dire qu'on spécule. Sauf que la différence principale, c'est la durée. C'est qu'entre-temps, on aura vécu dans cet appartement. Et si le jour où on veut le revendre, il se trouve que le prix soit plus élevé, tant mieux. Mmh. Bon. On n'a pas acheté l'appartement sans avoir l'intention d'y vivre et uniquement pour le revendre plus cher. Mmh. Bon. Ceux qui spéculent, c'est exactement cette dernière chose qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils achètent quelque chose dont ils n'ont absolument pas besoin, uniquement dans l'espoir de le revendre plus cher. C'est la forme la plus simple de spéculation. Donc on va acheter du réal, enfin l'exemple est mal choisi, on va acheter plutôt du dollar en vendant du réal, en se disant le dollar va s'apprécier, le réal va se déprécier. Une fois que la hausse du dollar a eu lieu, je peux revendre du dollar et obtenir plus de reais qu'auparavant. Et là, ça peut être rentable. C'est la même chose pour le pétrole, pour les matières premières. D'une façon générale, pour bien spéculer, enfin ceux qui spéculent bien, achètent quelque chose avant que son prix augmente, parviennent à revendre au moment où le prix est le plus haut possible, mais on peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut acheter au moment où le prix est le plus faible possible pour pouvoir le revendre. Il y a beaucoup de formes de spéculation différentes. Depuis le krach financier récent, on a beaucoup parlé de ce que l'on appelle le principe de la vente à terme. Alors, je vous prends un exemple. Aujourd'hui, tout le monde sait que les actions de France Télécom ou de Vivendi Universal se sont écroulées. Je prends un chiffre au hasard. Supposons qu'il y a un mois, un spéculateur avisé se dise « le prix de France Télécom vaut 100 euros, j'ai la conviction personnelle qu'à la fin du mois, le prix de l'action ne vaudra plus que 80 euros ». Cette personne, enfin ce spéculateur, va essayer de trouver des gens sur le marché pour leur dire la chose suivante « je m'engage à vous vendre l'action France Télécom qui aujourd'hui vaut 100 ». Je m'engage à vous la vendre dans un mois au prix de 90 euros. Bon. Et il trouve des acheteurs. Un mois plus tard, si le spéculateur a raison, qu'est-ce qui va se passer? l'action ne vaudra plus que 80 euros, mais il aura un acheteur pour 90 euros. Donc un mois plus tard, il va acheter l'action de France Télécom 80 euros, et le jour même, ou peut-être même la minute suivante, il la revend au prix de 90 euros. Donc là, il empoche un gain de 10 euros par action France Télécom. Et la beauté de la spéculation, si je puis dire, c'est que ce spéculateur, au départ, ne possède pas d'action France Télécom. Il n'a même pas besoin de les détenir. Il lui suffit d'avoir raison, ce qui est quand même pas facile, et un mois plus tard, de les acheter au prix de 80 pour les revendre à 90. Eh bien, sur les monnaies, on peut faire exactement la même chose. Et sur le pétrole, on peut faire exactement la même chose. Sur le cacao, qui est l'un des premiers produits exportés par la Côte d'Ivoire, qui est donc une recette d'exportation très importante pour la Côte d'Ivoire, on peut faire la même chose. Et aujourd'hui, ce type de pratique spéculative est tellement déstabilisatrice que certaines autorités financières, c'est-à-dire des ministres des Finances ou des commissions de régulation de bourse, se posent la question d'éventuellement interdire ce type de pratique. Mmh. Mais c'est tout à fait légal.
Et la taxe Tobin, justement, ça serait une forme de, pas d'interdiction, mais seulement de régulation de ce système-là?
Alors, la taxe Tobin, elle, je rappelle qu'elle ne concerne que la spéculation sur les monnaies, mais on pourrait très bien l'étendre à la spéculation sur les actions, les obligations des privés ou les obligations des États, ou sur tout ce qui est vendu ou acheté à la bourse, d'une façon générale. Elle a pour principe d'essayer de confisquer le profit qu'un spéculateur envisage de faire. Pour reprendre l'exemple précédent, si un spéculateur envisage de réaliser un gain spéculatif de 10 euros en achetant une action de France Télécom 80 euros et en la revendant 90, l'idée c'est d'instaurer une taxe qui va lui prendre les 10 euros de profit qu'il réalise. Mmh. Bon. Et de l'annoncer par avance, de façon à ce que ce spéculateur soit dissuadé de faire ce qu'il envisage de réaliser. Et aujourd'hui, on a, disons, les partisans de la taxe Tobin ont actualisé la proposition initiale de James Tobin, qui date justement de 1972, c'est-à-dire un an après l'éclatement du système de Bretton Woods, de façon à l'adapter au contexte de la mondialisation financière moderne. Autrement dit, lorsque la spéculation est faible sur une monnaie, on se contente d'une taxe à un faible taux. Et lorsque la spéculation devient tellement forte que une monnaie commence à se dévaloriser à grande vitesse et franchit un certain seuil qu'on a fixé au préalable, à ce moment-là, on adopte un taux de taxation très élevé, 50%, 80%, et personnellement, je suis partisan d'un taux de 100%. Alors, un impôt de 100%, ça veut dire quoi? Je crois que les auditeurs peuvent comprendre très facilement. Ça veut dire qu'on confisque tout. On prend l'intégralité du profit réalisé par le spéculateur. En l'occurrence, les 10 euros que j'évoquais tout à l'heure.
Voilà, des sous et des hommes, c'est terminé. La semaine prochaine, Bruno Jetin nous parlera de façon plus spécifique de la taxe Tobin. Mais on avait besoin de ce petit détour pour comprendre comment fonctionne l'échange des monnaies les unes contre les autres, puisque la taxe Tobin vise à taxer les transactions de change, justement. Je vous propose donc de nous rejoindre la semaine prochaine, le vendredi de 18h à 18h30. Si entre-temps vous désirez ardemment nous joindre d'une façon ou d'une autre, vous pouvez nous écrire à Allegre FM, des sous et des hommes, 42 rue de Montreuil, 75011 Paris, ou vous pouvez nous retrouver sur allegrefm en un seul mot.org ou des sous et des hommes avec un tiret entre chaque mot.org. À la semaine prochaine donc, le vendredi de 18h à 18h30.